Et bonjour tout le monde et merci d'être avec nous dans ce mag à propos d'une conférence du côté de COSAD, une conférence initiée par l'Université Populaire de COSAD autour des frontières d'hier et d'aujourd'hui, les portes ou des murs, une conférence qui nous est proposée par Jean-Louis Dirac qui est au bout du fil de mon téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien professeur d'histoire géo, vous êtes géographe pour le département du Lot dans différentes commissions départementales et vous allez donc proposer cette conférence autour des frontières. Alors si on feuillette un petit peu le petit livret de l'Université Populaire de COSAD qui propose donc cette conférence, il est mentionné qu'il y a 28 000 kilomètres supplémentaires de frontières depuis 1991. C'est un premier chiffre qui m'a interpellé. Il y a quoi ? Plus de pays ?
Oui, il y a d'une part beaucoup plus de pays, parce qu'effectivement, là, il faut tenir compte notamment de l'éclatement, de l'explosion du bloc soviétique de l'époque. Donc, il y a toute une série de pays qui ont recouvré leur indépendance en Europe centrale, d'une part. Donc, c'est ça, oui, c'est essentiel. Prenez par exemple l'ex-Yougoslavie, qui aujourd'hui est décomposée en Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Croatie, Monténégro, etc., etc. Donc, effectivement, il y a d'une part davantage de pays. C'est un élément, oui, fondamental pour le nombre, en ce qui concerne le nombre des frontières. Ce qui a changé, c'est parfois le caractère des frontières.
Oui, alors, frontières, définition, petit pointillé sur une carte ou barrière de douane ?
Alors, si vous voulez, frontière, il faut revenir à l'étymologie, qui remonte au XIIIe siècle. La frontière, c'était le front. C'était la séparation entre deux armées. Donc, si vous voulez, l'idée de conflictualité, au moins de concurrence, existe. Il y a le dedans et le dehors. C'est une zone de contact. Mais cette zone de contact, elle peut être pacifique ou elle peut être, comme je l'ai dit, conflictuelle. Enfin, et vous avez encore de par le monde des frontières marquées, alors par les murs on va reparler, mais avec des lignes de démarcation sévères, si je puis dire, comme entre les deux Corées depuis 1954, avec la séparation entre Corée du Nord et Corée du Sud, entre le Pakistan également, et l'Inde, enfin, vous avez dit, il y a encore des zones qui sont des zones d'affrontement à basse intensité, mais qui sont toujours latentes. Je pourrais puis citer dans le même cas la séparation de Chypre depuis l'invasion turque, donc entre le nord occupé par la Turquie et la région chypriote de Nicosie. Alors, il y a donc beaucoup de différences dans les frontières.
Oui, il y a des frontières ouvertes, des frontières fermées, des frontières naturelles aussi, et des frontières...
Oui, je vais vous couper parce que... Alors, des frontières ouvertes, oui, et même il y a des frontières qui sont... Il y a une défrontiérisation, etc. Il y a une défrontiérisation parce qu'elles sont tellement invisibilisées. Je pense par exemple aux frontières de l'Union européenne. Aujourd'hui, vous passez sans embâche, si je puis dire, de France en Espagne, de France en Belgique ou en Allemagne. Et donc, il y a toutes... Même les postes frontières ne sont que ceux-là des témoignages morts d'un certain passé. Les frontières, nos frontières sont déplacées aujourd'hui dans l'espace de Schengen. Donc, il n'y a plus des frontières. Les frontières nationales ne sont que un peu virtuelles, hein, ce qui nous concerne, puisque c'est une union économique, monétaire, etc. Alors après, effectivement, vous en avez qui sont effectivement. Alors, vous m'avez parlé de frontières naturelles. Alors, j'expliquerai justement samedi que la notion de frontières naturelles, à mon sens, elle n'a pas de sens. Donc, elle a été souvent employée par les géographes autrefois, mais si vous voulez, les éléments naturels, je dirais, montagnes, fleuves, etc., si vous voulez, ont servi d'appui en rapport de force. Alors bon, on dit c'est les Pyrénées, mais on voit très bien que c'est pas forcément la ligne sommitale qui est concernée. Et je montrerai même que, par exemple, du fait du changement climatique, les frontières sont déplacées, par exemple, là c'est quelques dizaines, maximum centaines de mètres, dans les Alpes, entre la Suisse et l'Italie, par exemple. Voilà. Donc, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que les frontières aujourd'hui sont polymorphes, parce qu'il y a des frontières totalement verrouillées, hein, avec des armées de chaque côté. Il y a des frontières par lesquelles on essaie de bloquer les migrants. Bon, c'est la mise en scène de Donald Trump pour le sud des États-Unis vis-à-vis du Mexique. C'est les frontières aussi autour d'Israël, enfin, etc. Donc des frontières totalement verrouillées. et encore avec des checkpoints, et puis il y a des frontières, au contraire, où non seulement le passage est facile, mais il y a ce qu'on appelle les interfaces, c'est-à-dire des zones économiques qui sont actives, prenons le cas notamment entre la France et l'Allemagne, ou la France ou la Suisse. Il y a des transfrontaliers qui quotidiennement passent d'un côté à l'autre, des entreprises qui sont établies sur la zone frontière.
Vous avez parlé de mise en scène. Si elles ne sont pas physiques et naturelles, les frontières, elles sont donc politiques, purement, pour vous.
Elles sont incontestablement politiques. C'est des parts. C'était une question qui était essentiellement étudiée par les juristes, ou ce que j'appelle les géographes militaires. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que c'est une limite de souveraineté. Mais tout ça interroge sur ce qu'est aujourd'hui, ce qu'est devenu la souveraineté nationale. Quelles sont les limites? Et puis, cette souveraineté nationale, elle est contrebalancée par le phénomène global qui est la mondialisation. Donc, vous avez toute une série de forces ou d'éléments qui, en quelque sorte, battent en brèche la souveraineté nationale. C'est les entreprises transnationales ou multinationales qui sont établies de part et d'autre, les capitaux qui circulent, ne parlons pas aussi des communications, alors Internet, et puis évidemment les mouvements de population, qu'ils soient migratoires ou qu'ils soient simplement touristiques, qui font qu'on s'affranchit les frontières et que les moyens techniques, les moyens de transport d'une part, les moyens de communication, les amenuisent en quelque sorte ces frontières, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas.
Alors qu'avant, elles étaient culturelles, plutôt, les frontières, presque.
Alors, c'est culturel, oui et non, parce que, quelquefois, justement, c'est le cas, notamment, on parlait au tout début de l'Europe centrale, de minorités qui étaient séparées par des frontières. On le voit, notamment, aujourd'hui, et on en parlera peut-être du conflit russo-ukrainien, où les populations sont extrêmement mêlées dans la zone du Donbass, mais ça se reproduit, c'était également le cas pour tous les Hongrois étant en Roumanie, dans la région des Carpates, etc. Il y a toute une série de régions où c'est la culture, si vous voulez, on parlera aussi des frontières linguistiques, ne s'arrêtent pas forcément, ne correspondent pas à la frontière politique.
Alors elles servent à quelque chose, ces frontières, ou pas?
Alors elles servent, oui. Je crois que quelqu'un avait dit, je ne sais plus si c'est Régis Debray qui disait, que la frontière ne sert pas à interdire, mais elle sert à réguler. Bon voilà, ça sert quand même à réguler. Normalement, ça doit perdre une frontière. Moi, j'évoquerai des théories qui sont totalement pour l'abolition des frontières, sont certainement irréalistes et certainement pas souhaitables, parce que la frontière marque quelque chose qui est important, c'est l'identité. Cela dit, elles sont très perturbées, elles ont leur raison d'être, parce qu'elles peuvent supposer quand même un minimum de contrôle, mais si vous voulez, bon, le verrouillage complet, de toute façon, c'est pour ça que je parlais de mise en scène, c'est un peu une illusion. Mais elles servent incontestablement, parce que, de toute façon, on a besoin, je crois que tout homme et tout peuple, toute nation, a besoin de s'identifier en territoire. Bon, reste à savoir quel est le degré de perméabilité, l'échange. Je crois que c'est Jean-Pierre Verdun qui disait que c'est dans l'échange qu'on se construit. On ne veut pas totalement, aujourd'hui, un État totalement fermé sur lui-même n'a pas de sens. Et puis, il y a un phénomène aussi dont il faut tenir compte, c'est les phénomènes de diaspora. Vous avez, par exemple, prenez le cas de la Turquie, qui n'a pas été admise pour des raisons multiples dans une extension européenne, il y a une dizaine d'années ou un petit peu plus, mais il y a une très forte minorité turque, notamment en Allemagne. Et donc, si vous voulez, où se situe la frontière? Parce que vous avez de plus en plus de personnes, et chez nous, c'est vrai aussi en France, avec les minorités d'origine maghrébine, ou autres, qui sont à la fois, se sentent, alors ça pose beaucoup de problèmes, cette question d'identité, ça interroge, mais il y a énormément de gens, et c'est pas seulement vrai en France, qui se sentent en quelque sorte à posséder une double, voire une multiple identité. Et à partir de là, ça n'empêche pas que la frontière existe, que doit être respectée, mais néanmoins, le monde, on vit dans un monde qui est décloisonné, d'une certaine manière. De par les communications, l'économie, on voit les produits de consommation, etc. Bon, les échanges sont multilatéraux, sont extrêmement prégnants, quoi.
Et encore, on n'a pas parlé des eaux internationales. On a parlé
identité, culture. J'en parlerai, c'est vrai. Il y a même un accord qui vient d'être passé très récemment là-dessus, qui va tenter de maîtriser ce qui est hors des eaux internationales. Mais là aussi, je l'évoquerai notamment très rapidement, mais j'en parlerai parce que effectivement, les eaux internationales font que, notamment, si on prend ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, font que, par exemple, le domaine maritime français est immense de par la possession, entre guillemets, encore de la Nouvelle-Calédonie, des îles des îles du Pacifique, Tahiti et les autres, même du petit îlot de Clipperton au large de l'Amérique du Sud côté Pacifique, qui nous donne, avec ce territoire très étendu, de 300 000 autour des possessions terrestres. Voilà. Il n'y a personne qui habite à Clipperton, mais la France a, je ne sais plus combien, des milliers de kilomètres carrés, enfin, autour de cet îlot. Bon, voilà, donc, mais bon, et ça, c'est, il y a des concurrences, et on voit bien ce qui est en train de se dessiner par rapport aux frontières ou à ceux qui les imaginent, depuis l'impérialisme russe poutinien vers l'Europe centrale, et ou des prétentions pharaoniques ou délirantes de Donald Trump.
Le Groenland, le Venezuela, et hop, on change tout.
Voilà.
Frontières d'hier et d'aujourd'hui, des portes ou des murs, on parlait identité, culture, économie, politique et géographie dans le cadre de votre venue ce samedi à Caussade grâce à une conférence de l'Université Populaire. Jean-Louis Dira, restez avec nous, on continue à parler dans ce mag, mais juste après la musique. De retour dans ce mag où on est en train de parler frontières. Frontières d'hier et d'aujourd'hui, des portes ou des murs, c'est la thématique de la prochaine conférence de l'Université Populaire de Caussade qui se tiendra ce samedi à 16h30 au Récollet. L'Université Populaire qui invite donc Jean-Louis Dira, prof d'histoire géo, géographe pour le département du Lot. Alors, on a parlé identité politique, géographie, souveraineté des États. Est-ce qu'on parle ne serait-ce que de la frontière entre nous ? Vous êtes lotois, on est Tarn-et-Garonnais. C'est encore une frontière, ça?
Je crois qu'elle est de moins en moins pertinente, encore qu'elle soit perçue par certains. On est de ce département. Vous savez qu'il y a aussi, il y a eu source, je dirais pas de conflictualité, mais en tout cas un peu de jalousie, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'origine, la période révolutionnaire n'avait pas envisagé le département de Tarn-et-Garonne.
Tout à fait.
Et que le Tarn-et-Garonne a été construit postérieurement, sous le consulat, si je me souviens bien, ou à la fin de la Révolution en tout cas, en prenant un morceau de département du Tarn, un gros morceau au Lot, la région quercinoise, et sur le Lot et Garonne, et parce que, évidemment, Montauban, et c'est légitime, aspirait à être chef-lieu de département. Ensuite, je pense que, je ne sais pas quel est, vous savez, c'est le ressenti qui est important. Est-ce qu'on se sent appartenir à un pays, comme on dit, mais au sens de petit pays? Alors, est-ce qu'on est, bon, moi je suis un transplanté dans le Lot, mais originaire de Toulouse, j'ai vécu et j'ai une petite résidence secondaire en Ariège, donc je me sens vraiment occitan. Mais est-ce que je me lotois un petit peu parce que c'est ma terre d'élection et que je m'y trouve bien, mais je pourrais tout aussi bien être en Tarn-et-Garonne, où d'ailleurs j'ai de la famille, puisque moi j'ai des origines familiales qui se situent vraiment au contact, c'est ce qu'on appelle le tripoint en frontière, entre le Gers, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne, dans la région de la Lomagne. Mon berceau paternel ou maternel se situe dans ce point. Donc vous voyez, on a beaucoup à faire avec le Tarn-et-Garonne.
En tout cas, tout est une question, encore une fois, une question d'identité et d'argent. Une frontière, ça se négocie, ça s'achète et puis ça se trace à la règle. Hein. Je pense aux États des États-Unis, par exemple.
Oui. Oui, ça, alors à ce moment-là, parce que effectivement, alors ça c'est une autre... La question des États-Unis, je l'évoquerai aussi incidemment par ce qu'on appelle the frontier, la frontière dans le sens de quelque chose. Alors, c'est une réalité, c'est un certain Turner qui avait défini ça au 19e siècle, c'est-à-dire la frontière, c'était la limite, mais une limite qui bougeait, qui se déplaçait à la vitesse, j'allais dire, des chariots et puis des migrants qui venaient aux États-Unis, avant même la conquête la ruée vers l'or, mais qui était pour conquérir ces terres sur les terres des natifs, des Amérindiens. Et donc, cette conquête se déplaçait. C'était la frontière aussi. Et comme il y avait très très peu d'habitants, effectivement, on a utilisé un élément géographique de base, qui était les parallèles et les méridiens, pour tracer des frontières, effectivement, à la règle. Bon, d'autres acquisitions, Donald Trump, le président américain, veut acheter le Groenland, mais il ne faut pas oublier que les Américains nous ont acheté la Louisiane, enfin bon, donc il y a eu toutes sortes, vous savez, les territoires ont été acquis, soit par la force, soit par l'achat, et les Américains aussi, ils avaient acheté l'Alaska à la Russie, hein, et donc ça, c'est diverses modalités. Mais pour ce qui concerne la frontière politique, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure qui était important, la notion de frontière au sens politique, elle prend son sens au traité de Westphalie en 1648. C'est-à-dire, on a pour la première fois un partage négocié et des tracés de frontières qui sont établis, parce que pendant très longtemps, même si on remonte au Moyen-Âge ou avant, la frontière c'est quelque chose de vague. Même si on parle du limès romain, c'est bon, il y avait bien des marques comme le mur d'Adrien, mais c'était relativement vague. Mais par contre, si vous voulez, à partir de 1648, il y a 10 États constitués, et chaque État est une entité politique qui dans ses droits, à l'intérieur de ces terres qui sont tracées, et pratiquement bornées. Alors ça a bougé, en fonction des différents conflits postérieurs, ça a beaucoup bougé, les frontières. On voit même les frontières de la France, qui sont définitivement établies après 1945, pour petit détail, mais enfin en gros, qui a été établie au XIXe siècle. Ça bouge, mais c'est la souveraineté juridique d'un État sur un territoire. C'est ça au départ.
Et c'est comme ça hein, depuis la nuit des temps, hein, et puis c'est aussi comme ça dans l'ensemble du monde animal.
Oui, la nuit des temps, oui. On en parlera, parce que je crois que la première, alors si vous parlez de la nuit des temps, le premier, il y a un texte qui est en écriture cunéiforme, qui date des Assyriens, enfin, qui montre qu'il y a eu déjà un conflit frontalier entre deux villes au troisième millénaire avant notre ère.
Voilà. Et nous, on ne fait pas pipi sur les coins de porte ou pour marquer notre territoire. Par contre, on érige des grands murs qu'on va même peindre en noir pour les rendre très très chauds et ne pas pouvoir passer. Je pense encore une fois en Amérique, les frontières maintenant, ça rebute un peu. On est dans une période actuelle, là, les frontières, c'est quelque chose de plutôt négatif. On retourne sur, étymologiquement, donc la ligne de front.
Oui, mais oui, c'est la ligne de front et avec des paradoxes qui sont énormes, parce que si vous voulez, on est dans un monde dit libéral, de libéralisme économique, voire d'ultralibéralisme, ce qui est effectivement, je poserai ces questions, est-ce qu'il est logique que d'une part, on ait une très grande liberté on parle maintenant à nouveau de droit de douane, mais est-ce qu'on peut considérer comme logique que l'information, quand elle n'est pas cadenassée, comme on le voit très présentement en Iran, puisse circuler, que les marchandises puissent circuler, les brevets, enfin, etc. et que en même temps les populations soient cantonnées, soient bloquées. À ceci près que là aussi il y a une notion, j'allais dire presque, de classe sociale, parce que effectivement, selon le passeport que vous avez, dont vous disposez, c'est-à-dire déjà de quelle nationalité vous êtes, et puis ensuite de votre pouvoir d'achat, ça ne sera pas pareil. Bon, parce que je prends un exemple un peu trivial, mais si vous êtes arabe, c'est différent. Si vous venez du Maghreb ou si vous venez d'Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes Unis. Je vois ce que je veux dire. Je veux pas, si vous aspirez à la propriété à Paris, vous avez déjà quand même beaucoup plus d'arguments financiers venant des Émirats ou du Qatar, par exemple. Bon, c'est une question qu'on peut mettre en avant. Pour ce qui est de la frontière américaine, ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, on érige un mur de plus en plus haut, qui sera, bon, il y aura des tunnels, il y aura une police police de contrôle de l'immigration, mais de notre côté, les entreprises américaines vont installer ce qu'on appelle les maquiladoras, c'est-à-dire des usines qui emploient de la main-d'œuvre 5 fois moins chère qu'aux États-Unis, juste de l'autre côté de la frontière au Mexique. Alors que les Mexicains, eux, veulent venir évidemment aux États-Unis pour gagner un petit peu plus, pour améliorer leur ordinaire. Enfin, on a des choses qui sont... La question des frontières permet, si vous voulez, de passer sous le prisme de l'observation, je dirais, une quantité énorme de données économiques, sociales, politiques, culturelles, etc.
Psychologiques, sociologiques.
Ou psychologiques, oui.
Vous avez encore du boulot, hein, Jean-Louis dira. Mais...
Oui. on pourrait parler aussi, justement, parce que j'étends le terme de frontière beaucoup plus largement, parce qu'on parle aussi de la frontière, des frontières sociales, les différences entre quartiers, entre parties de ville, les quartiers bourgeois, les quartiers, au contraire, qu'on appelle populaires aujourd'hui, qui sont... Bon, et il y a des différences également, je dirais, on pourrait parler de nos frontières mentales, on peut aller jusque-là, voilà, pourquoi on agit comme ceci ou comme cela. Voilà.
Réservez votre après-midi de ce samedi, frontières d'hier et d'aujourd'hui, des portes ou des murs, une conférence à 16h30 au Récollet de Caussade ce samedi. C'est tout gratuit, c'est sur invitation de l'Université Populaire de Caussade. Et c'est avec vous qu'on va parler frontières. Donc Jean-Louis Dira, je rappelle que vous êtes ancien prof d'histoire-géo, vous êtes géographe pour le département du Lot dans différentes commissions départementales. Un grand merci et à samedi.
Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie et donc à samedi.
Et merci à tous et à chacun de nous avoir suivis tout au long d'un MAC qui sera, comme d'habitude, rediffusé à 18h et à 21h. Vous pouvez aussi le réentendre en podcast sur le site cfmradio.fr. Juste après les infos, restez pour la suite du MAC depuis Montauban avec Rémi.